Vous le savez maintenant, le port du masque sera obligatoire dès samedi prochain, soit le 18. Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter de d'autres choses? Si on nous a tranquillement amenés à comprendre qu'il faille porter le masque, c'est parce que c'est la transmission par aérosol, c'est-à-dire des gouttelettes de notre expiration sont en suspension dans l'air et qui peuvent contaminer par les voies d'ouverture, le nez, la bouche ou encore même les yeux, quelqu'un d'autre. Et ainsi donc, nous-mêmes, on peut se faire contaminer de cette façon-là. Mais s'ajoute à ça un autre problème. Et de plus en plus, on parle de systèmes de ventilation dans les édifices, dans les endroits publics. Est-ce qu'il va falloir faire attention à cela aussi? Mark Hamilton est microbiologiste et président des laboratoires Eurofin et Environex. Bonjour, Mark Hamilton.
Oui, bonjour, M. Bongrain.
Alors, moi, je veux bien là, l'aérosol, je comprends, la distanciation, les gouttelettes qu'ils nous ont dit au bout de 1,5 mètre, 2 mètres, il y en a moins, ça tombe au sol, ça se dépose sur des objets, on sait la résistance que ça peut avoir, 1 heure, 3 heures, 6 heures, dépendamment de la matière sur laquelle ça se dépose. Mais là, on est en train de me parler de l'air ambiant, là. C'est d'autres choses.
Ben, c'est différent. C'est sûr que, comme vous l'aviez bien expliqué, lorsqu'une personne respire, ou encore pire, lorsqu'elle éternue, on sait que les micro-gouttelettes les plus lourdes vont se déposer à maximum 2 mètres en avant de nous. Mais les petites micro-gouttelettes fines qu'on ne voit pas à l'œil nu, eux, vont rester plus longtemps en suspension. Donc, il y a plusieurs études crédibles qui ont été faites dans les dernières semaines, derniers mois, qui disent que le fameux 2 mètres, lorsqu'une personne éternue, est insuffisant, qui fait que le fume, si on veut, la fumée de micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu peut aller au-delà du 2 mètres et se mélanger à l'air ambiant dans une pièce fermée encore. Et ces micro-gouttelettes-là, bien, si on veut, plus ce fume-là, cette vaporisation-là, bien, c'est elle qui peut contenir certaines quantités de particules virales potentiellement infectieuses. Et c'est surtout ça qu'il faut se poser comme question. Quel est le potentiel d'infection de ces aérosols?
Mais je vais faire un parallèle avec autre chose, puis contredisez-moi s'il le faut, j'ai aucun problème avec ça. J'ai déjà entendu parler, et ça a été une problématique, dans nos édifices publics, dans les hôpitaux, un peu partout, dans les écoles, tous les conduits d'aération avaient besoin d'être nettoyés parce qu'il y avait eu une négligence d'entretien hygiénique là-dedans. Puis c'était épouvantable ce qui sortait de là quand on voulait avoir de l'air frais. C'est pas ça qu'on avait. On avait toutes sortes de cochonneries en suspension. Est-ce qu'il va falloir nettoyer tout ça éventuellement?
Bien, je pense que, comme vous venez de mentionner, l'entretien normal pour enlever les poussières accumulées, ça devrait être fait des belles lurettes. Je pense que au-delà des virus, la poussière qui contient des bactéries, qui contient des moisissures, qui contient des particules autres que vivantes, ça reste un problème qu'il faut nettoyer. Je pense que ça doit être fait, comme vous dites, au-delà du virus. Ce qu'il faut penser dans un système de ventilation, on avance toujours que la théorie de les aérosols qu'on projette dans l'air d'une personne qui est porteuse, on s'entend.
Ben oui.
Ben, souvent, les questions qui m'est posées, c'est écoutez, moi, je suis dans un hôpital, je suis dans un endroit, j'ai aucune idée comment fonctionne le système de ventilation. Est-ce qu'il peut y avoir une propagation d'un local à l'autre, si moi je suis infectieux et que j'éternue et que là, ça rentre dans le système de ventilation puis ça s'en va dans une autre chambre à côté, est-ce qu'il y a des risques? Bon. Au moment où on se parle...
C'est une bonne question, cela.
C'est une excellente question. Beaucoup de gens se la posent présentement. Puis il y a plusieurs théories. Mais il reste que présentement, la seule chose que je peux vous dire, c'est que il n'y a pas d'étude qui s'est vraiment orienté sur ce cas de figure-là, qui fait quelles sont mes garanties que je sois infecté si je suis dans un système, si j'éternue dans un système de ventilation inadéquat. Cependant, théoriquement parlant, si on prend la force du virus, on sait que le virus va vivre environ 3 heures dans l'air ambiant. Donc, du moment que la petite particule virale, ça va dans l'air, elle a à peu près une durée de vie de 3 heures. Donc, durant ces 3 heures-là, si elle réussit à voyager et de rentrer dans un système de ventilation et de passer au travers des fils, parce qu'on s'entend que pour capter un virus de cette grosseur-là, ça prend quand même des filtres
assez denses.
Ben exact. Il va être capable de filtrer beaucoup plus qu'une simple poussière. Donc, c'est sûr que le virus peut passer au travers d'un simple filtre ordinaire et s'en aller dans un autre local et potentiellement voir à infecter une autre personne. Mais encore là, ces études-là n'ont pas été prouvées. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la charge virale qu'il faut pour infecter une personne.
Le microbiologiste en vous vient de me perdre. Une charge virale, qu'est-ce que c'est?
Ben, la charge virale, c'est combien de particules virales on doit respirer pour attraper le virus. Parce qu'on s'entend que lorsque quelqu'un éternue, donc juste un exemple, lorsqu'on éternue, les micro-gouttelettes qu'on émet dans l'air, c'est des centaines de millions de particules qui peuvent s'en aller dans l'air. Donc ça, c'est lorsqu'une personne éternue qui est vraiment porteuse, donc mettons qu'on prend un chiffron, 100 millions de particules virales qui est envoyées dans l'air, il y a peut-être la majorité qui va tomber en dedans de 2 mètres, puis le 30% ou le 20% que ça va dans l'air. Bon, rendu là, il n'y a pas d'étude qui a dit est-ce qu'il faut que j'en respire 10 particules? Est-ce qu'il faut que j'en respire 100, 1000, 100 000 pour que le virus réussisse à se développer à l'intérieur d'un corps humain? Ça, c'est pas encore prédéfini. De sorte que la charge virale qui dit, moi, là, faut que je sois en contact avec combien de particules virales pour s'assurer que j'attrape le virus, c'est pas encore entièrement prouvé. Donc, c'est ça qui fait que s'il y en a qui ça va dans un système de ventilation, on sait que dans un système de ventilation, il va y avoir un phénomène de dilution de l'air.
Ouais,
parce
ouais.
que je veux pas, il y a des mélanges qui se font à gauche, à droite, une partie exact. D'air frais qui rentre, qui fait que sur les 100 millions qu'on va expirer, qu'on va sortir lorsqu'on éternue, il y en a quelques-uns qui tombent, la grande majorité tombe dans 2 mètres, le restant va, mettons, dans un système de ventilation et dilué. Il y en a quelques-unes qui vont probablement s'en aller dans un autre local. La personne va, en guillemets, rentrer en contact avec ces particules virales résiduelles. Est-ce que c'est assez pour l'infecter? Ça n'a pas été prouvé. Mais scientifiquement parlant, si vous me posez la question, est-ce que le virus, en dedans de 3 heures, pourrait voyager au travers d'un système de ventilation inefficace et potentiellement rentrer en contact dans un autre local à côté? La réponse est oui. Mais est-ce que c'est suffisant pour infecter la personne? J'ai pas de données pour vous prouver qu'effectivement, ça prend, il y a un risque à 95 ou 100% que ça peut arriver. Ça, je peux pas vous le donner. Mais scientifiquement parlant, il y a un risque. C'est sûr que des études le prouvent. Lorsqu'on est dans un secteur fermé, mettons qu'on est dans un bureau fermé, et encore plus s'il n'y a pas de système de ventilation, il faut faire aérer la pièce. Parce que si on éternue, surtout si une personne est à risque, elle éternue souvent, l'air ambiant, elle a besoin d'être changé. Donc, ouvrir des fenêtres, créer des courants d'air, emmener la pièce à pression négative. Pression négative, ça veut dire que l'air va sortir dehors plus que rester. Ça, c'est les règles de l'art minimales qu'on va voir souvent dans les hôpitaux lorsque des personnes sont infectées.
Mark Hamilton, merci beaucoup. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut être prudent.
Absolument.
OK, j'aime mieux ça de même, parce que là, je commençais à penser que je vais me mettre un scaphandre pour faire de la radio, là. Merci.
Non, parce qu'on aurait tous peur. Tout le monde est dans des édifices à bureau. Il ne faut pas partir en peur avec ça.
Parfait.
Mais il reste qu'il y aura certainement des études qui vont prouver ce que je viens de dire un petit peu plus tard.
Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci.
Ça fait plaisir.
Merci. On va parler maintenant à Steve Tremblay, qui est conseiller en santé et sécurité au travail. Bonjour, M. Tremblay.
Bonjour, M. Bongrain.
Hey, c'est pas encourageant.
Non, c'est pas encourageant, mais juste pour ajouter à ce que votre invité venait de bien expliquer, à Vigie Mont-Royal, vous savez, le CHSLD, où est-ce que 100% des gens qui étaient dans le bâtiment ont été infectés?
Régie Mont-Royal.
Vigie,
excusez-moi.
V-I-G-I, oui. Mont-Royal, qui fait partie du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal avec l'Hôpital Général Juif. Entre le moment où il y a eu le premier cas de la première personne testée positive dans le bâtiment et 100% des gens dans le bâtiment, il s'est écoulé 6 jours. Et tous les spécialistes du CIUS se demandaient pourquoi autant 100% des gens ont attrapé le virus, même s'il y avait des personnes, des résidents qui ne sortaient pas de leur chambre et qui n'avaient aucun contact avec personne. Même ces gens-là l'ont contracté et même les gens de l'armée canadienne l'ont contracté. Eux, ils ont fait des recherches intensives avec les spécialistes de la qualité de l'air du CIUS et ils ont réussi à trouver comment ça a pu se produire.
Dites-moi-les.
La première journée où est-ce qu'il y a eu le cas testé positif, le système d'amener d'air frais a brisé. Et ce qui a fait grimper le taux de concentration de CO2 dans le bâtiment. Les spécialistes ne pouvaient pas mesurer le taux de COVID dans l'air, mais ils ont pu mesurer le taux de CO2 expiré et produit par les poumons. Donc, si on dépasse 5000 ppm dans le bâtiment...
Parti qui est le par taux, million, ppm, là, c'est pas mon c'est grain ça. PM, là, c'est parti
non.
par million.
Exactement. Okay. Donc, avec ça, ils ont pu déterminer qu'il y avait un problème au niveau de l'amener d'air frais. Parce qu'actuellement, les normes dans un bâtiment, M. Mongrain, c'est 15 % d'amener d'air frais, 85 % d'air reconditionné. Okay. Ça ne veut pas dire que vous avez une mauvaise ventilation parce que vous avez de l'air reconditionné.
Non.
Par contre, on peut avoir un problème si l'amener d'air frais n'est pas assez important. Et pour votre information, au niveau de la gouvernance pour la réouverture des immeubles à bureaux, par exemple, ou dans les autres édifices où est-ce qu'il y a beaucoup de travailleurs, je sais déjà que la santé publique travaille à trouver une méthode pour pouvoir contrôler ça, à savoir peut-être l'installation de détecteurs de CO2 sur chacun des étages qui pourraient indiquer, hop, faites attention, le taux de CO2 vient d'augmenter, il y a un problème avec l'amener d'air frais, ça va envoyer un signal aux équipements sur les toitures pour faire amener plus d'air frais par les machines.
On n'est pas à veille de prendre l'ascenseur pour aller travailler au 22e, là?
Écoutez, avec l'apport d'air frais dans les bâtiments suffisant, il n'y en a pas de risque.
Okay.
Si tout le monde respecte les mesures de distance et le port du masque, non, ben, l'étiquette respiratoire, pas de problème. Là.
Entre vous et moi, d'un ascenseur, là, on s'entend-tu que...
C'est ventilé, un ascenseur.
Oui, je sais, mais le 2 mètres, là, on met 3 personnes là-dedans, 2 personnes?
Actuellement, il faut respecter le 2 mètres. Donc, si c'est pas plus que 2-3 personnes... sans mesure de protection. Maintenant, avec le port du masque obligatoire, on attend les directives qui devraient être annoncées justement demain pour le retour au travail dans les édifices à bureaux.
Hey, parlez-moi du métro.
Oui.
Et es-tu assez ventilé? Je mets-tu deux masques?
Bien sûr. Dans le métro, vous savez qu'il y a des grosses bouches d'aération naturelle, du vent naturel, puis ça se fait de façon par effet de cheminée qu'on appelle, d'une station à l'autre. C'est pour ça que quand il y a un métro qui passe, on sent un gros tirant d'air.
Oui.
Donc, c'est assez ventilé, ça, il n'y a pas de problème pour ça, je suis même pas inquiet.
Okay. Les autobus?
Que ce soit chez vous, dans les autobus ou dans un endroit fermé, l'important, c'est l'amener d'air frais.
Que je fais, j'ouvre les fenêtres dans l'autobus parce que
vous ouvrez. Oui,
il y a des fois que je sens le voisin, mais je ne sens pas le COVID.
Ou vous ne sentez pas le courant d'air. Non, mais c'est vraiment important. C'est la clé. C'est la clé dans les bâtiments fermés. Il faut un apport d'air frais important pour être certain que le taux CO2 n'augmente pas si jamais il y avait un problème avec la ventilation.
Hey, c'est tellement gentil, M. Tremblay, de nous avoir donné ces informations-là. Et au plaisir de vous reparler.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. On s'arrête pour une pause. D'ores et déjà, ça va assez vite, hein? On va aller prendre l'air, moi.